faut-il plus de référendums en France? Sur fond d'abstention et de fatigue démocratique, la question alimente le duel Macron-Le Pen.
Qu'est-ce qu'ils veulent les Français? Ils veulent élire un chef de l'État qui revivifie la démocratie, parce que la démocratie va mal dans notre pays.
Je n'exclus pas le référendum pour quelque réforme que ce soit. Vous savez, moi je veux rassembler.
Le référendum, souvent promis par les dirigeants politiques, est peu appliqué en France. Il l'a été 10 fois seulement depuis 1958, depuis que les Français ont approuvé à 82,6% la Constitution qui posa les bases de la Ve République. Aujourd'hui, si Marine Le Pen et Emmanuel Macron déclarent vouloir s'en remettre davantage au peuple, leur méthode et leur objectif diffèrent. Emmanuel Macron y songe pour consulter les Français sur l'épineuse réforme des retraites. La présidente du RN souhaite-elle développer des consultations populaires comme le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Mais elle entend surtout modifier la Constitution par référendum pour y inscrire notamment le principe de priorité nationale.
C'est beaucoup plus sain que ce soit le peuple qui le vote, je trouve, plutôt que les deux chambres. Et je pense même, je vais vous dire, que seul le peuple devrait avoir la possibilité de réviser la Constitution.
Réviser la Constitution sans passer par la validation du Parlement. Attention, danger, s'exclame Emmanuel Macron.
Il faut que tous nos compatriotes aient aussi ça en tête. Quand Mme Le Pen dit « Moi, je changerai notre Constitution sans en respecter les règles ». Folie.
Pourquoi folie?
Parce que c'est ce qui peut nous conduire ensuite à changer les choses à sa main et à manipuler.
Alors, dans quelles circonstances peut-on recourir au référendum? Outil démocratique ou populiste? Faut-il étendre le recours aux différentes consultations citoyennes?
2017, aucun référendum n'a donc été organisé au niveau national depuis maintenant 17 ans et la victoire, on s'en souvient, du non au projet de constitution européenne contre, à l'époque, l'avis, l'opinion du gouvernement de Jacques Chirac, douche froide donc pour nos dirigeants de l'époque. Est-ce que ça a constitué justement, Marianne Coandé, un traumatisme pour les présidents qui ont succédé à Jacques Chirac et c'est pour cela qu'ils n'ont pas eu recours au référendum depuis?
Et oui, référendum qui a été un traumatisme pour tout le monde, aussi bien pour la classe politique, qui est 2005, où on a vu un changement d'opinion du peuple, et pour le peuple lui-même, parce qu'on a vu que ensuite le Congrès a été saisi et a fait adopter une réforme certes modifiée, tout de même, il faut le rappeler, tout de même modifiée, mais quand même, donc il y a une espèce de jeu de dupes qui posait problème.
Raoul Mani-Berton, en même temps, les présidents qui ont succédé, Nicolas Sarkozy l'a envisagé sur l'immigration, François Hollande sur la déchéance de nationalité, Emmanuel Macron sur le climat, et finalement, eh bien, ils ne sont pas allés jusqu'au bout, c'est vrai.
Oui, en fait, enfin, vous avez dit que c'est bien les désaccords. Alors, j'ai un avis différent sur la raison pour laquelle ça fait 17 ans qu'on n'a pas de référendum.
Ouais.
C'est que le référendum, le sens du référendum, c'est l'appel à l'arbitrage de l'électorat.
Oui.
Donc, toutes les fois qu'il y a un conflit, toutes les fois qu'il y a un conflit, l'idée, c'est qu'on puisse résoudre ce conflit à travers le vote des gens. En fait, le fait qu'on n'ait pas plus de référendum, c'est qu'il n'y a plus de conflit institutionnel. Parce qu'on a créé un calendrier électoral de 5 ans aligné sur la présidentielle. Oui. Et donc le président n'est jamais plus en conflit avec son assemblée. Mmh. Et la plupart des référendums qui ont eu lieu sont issus de ce conflit-là. Donc en fait, on n'en a plus besoin parce que le président n'a plus besoin de faire appel à la population.
Vous n'êtes pas d'accord tous les deux?
Je ne suis pas forcément en désaccord avec ce point-là, mais je pense qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles les hommes politiques et les présidents en particulier n'ont jamais recours au référendum. C'est parce qu'ils ont peur, en réalité. Et je pense que, malgré tout...
Peur de quoi, pardon?
Alors, ils ont peur d'être désavoués par le peuple. Et je pense, malgré tout, qu'il y a quand même une croyance profondément enracinée dans les élites politiques françaises, qui est que le peuple est déraisonnable, mu par ses pulsions irrationnelles, et que du coup, c'est quand même très risqué de lui faire appel. D'ailleurs, on a vu ça ressurgir au moment du débat sur le RIC pendant les Gilets jaunes, où on avait l'impression que c'était terrible et que les Français allaient s'apprêter à voter la peine de mort si on leur donnait l'opportunité. Ce qui est un petit peu gênant avec cette manière de penser, c'est que si on va au bout de ce raisonnement, au fond, on remet en cause même les élections. Parce que si les gens sont...
irrationnels.
Il faut les protéger d'eux-mêmes et donc arrêter tout de suite de faire des élections. Oui. Donc pousser jusqu'au bout, jusqu'à son extrémité, ce raisonnement est un petit peu problématique.
Juste une réaction avant qu'on examine les propositions d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen.
Oui, donc le référendum, a priori, c'est quand même une idée magnifique. Mm-hmm. C'est le peuple qui s'exprime directement et qui tranche, donc complètement démocratique. Seulement, le problème, c'est que le référendum peut être très dangereux, et notamment, il dépend des mains dans lesquelles on le met. Mm-hmm. Quand on place le référendum, parce qu'en France, l'initiative du référendum appartient au président ou aux parlementaires, dans les faits, c'est toujours le président qui décide, mm-hmm. alors que dans la plupart des autres pays, ce sont les parlements qui soumettent une idée au référendum, ce qui est complètement différent. Et surtout, en France, on sait aussi que le référendum va fonctionner de manière complètement différente selon les mains dans lesquelles on le place. Si vous passez un contrat de travail avec un employeur hyper autoritaire et peu respectueux des règles de droit, vous risquez d'avoir des problèmes. On risque d'avoir le même problème en France, parce qu'il faut rappeler tout de même que Mme Le Pen n'est pas démocrate. Il faut se souvenir un petit peu une seconde là-dessus. Ça me semble absolument essentiel. C'est-à-dire que c'est tout de même quelqu'un qui a décidé de reprendre le parti de son père, qui vendait des disques nazis, qui faisait des meetings dans lesquels il disait « Simone Veil » et la foule répondait « Au four ». Oui. Et Mme Le Pen a choisi de reprendre ce parti et elle n'a jamais désavoué explicitement ses actes. On pourrait croire qu'elle a changé d'avis, mais pas du tout. Elle soutient Viktor Orban. Ses amis sont les plus autoritaires. Donc c'est un vrai problème.
Benjamin ?
En même temps,
elle se soumet au vote, par ailleurs.
Oui,
oui, mais ça suffit pas. Oui, ça suffit pas.
Raoul Manibertin, en même temps, c'est vrai qu'on est dans un régime parlementaire, donc on pourrait estimer, en effet, que le référendum n'est pas approprié, puisqu'on a des représentants.
Comme j'expliquais tout à l'heure, le référendum, c'est l'outil pour résoudre des crises. Ça, partout, même quand c'est à l'initiative des citoyens. Parfois, c'est à l'initiative des citoyens comme en Suisse. Ou,
on va en parler tout à l'heure.
Oui, oui, mais parfois, c'est à l'initiative des minorités. Ouais. Ça, c'est important. Au Danemark, par exemple, c'est des minorités parlementaires qui peuvent lancer un référendum quand ils ne sont pas d'accord avec la majorité. Donc, c'est à l'initiative de l'opposition, en général. Alors qu'il y a le référendum à l'initiative du pouvoir. Ce n'est pas du tout la même logique dans les deux cas. C'est là que vous avez cité au début, quand c'est à l'initiative de l'opposition, le pouvoir gouverne sous la menace d'un référendum.
D'accord.
Alors que quand c'est à l'initiative du pouvoir, il gouverne avec l'outil. Et le référendum, c'est à contourner le Parlement.
Le Parlement.
Donc en fait, il faut voir ça, juste je vous dis ça, parce que lorsque c'est à l'initiative de l'opposition, ça rend plus fort un Parlement, en fait. Mmh. Parce qu'il a un outil pour contester la majorité. Alors que quand c'est à l'initiative du gouvernement, ça rend plus faible. Donc vous voyez, selon l'initiative, l'effet sur le Parlement est différent.
Alors, on va s'intéresser aux propositions des deux finalistes du second tour. Marine Le Pen, la peine de mort par référendum.
Oui, parce que le retour de la peine de mort, c'est un marqueur historique du Front National, mais elle l'a fait légèrement, très légèrement, évoluer ces dernières années. En l'occurrence, en 2017, elle avait retiré la mesure de son programme, quitte, disait-elle, à ce que les Français la rétablissent via un référendum d'initiative populaire, propos confirmés et répétés hier soir, je la cite à nouveau, la question de la peine de mort pourrait passer par un référendum. Il n'y a pas de débat interdit en démocratie, reste que la Constitution française, elle est très claire, elle interdit à l'État de condamner à mort un individu, c'est l'article 66.1, le protocole numéro 6 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit la peine de mort en temps de paix, et la Cour européenne des droits de l'homme l'interdit par tous les temps, il y a beaucoup d'accords internationaux sur le sujet. Du côté de l'opinion, il faut signaler que le CEVIPOF, qui sonde très régulièrement la population sur le sujet, avait révélé qu'en 2020, 46% tout de même des personnes interrogées s'étaient prononcées pour son rétablissement. Et de leur côté, 85% des sympathisants Rassemblement National sont pour le retour de la peine capitale. Hervé Matou, est-ce qu'il y a une possibilité qu'un référendum puisse être organisé sur la peine de mort, ou est-ce qu'on a effectivement des garde-fous, des obstacles à ça?
Alors, il me semble que le projet principal de Marine Le Pen, c'est de faire c'est de faire un référendum sur la priorité nationale, juste après les élections et sur l'immigration.
Oui.
Alors, la question que vous posez, en fait, elle est intéressante parce qu'elle pose la question de l'équilibre entre la démocratie et l'état de droit.
Oui.
Et selon beaucoup de juristes, il y a eu une extension du domaine de cet état de droit. Alors, il n'y a pas que la question de la peine de mort qui rentre là-dedans. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on considère qu'il faut protéger les libertés individuelles ou les libertés fondamentales, et du coup, on va limiter l'espace de la souveraineté populaire pour pas qu'ils viennent menacer
des droits fondamentaux.
Selon certains, il y a eu une extension en fait, de l'interprétation de ces libertés fondamentales qui vient paralyser un petit peu la souveraineté populaire. Je ne parle pas de la peine de mort, là, le cas
échéant. Donnez-nous un exemple.
Mais je vous donne un exemple plutôt de droite et un exemple plutôt de gauche.
Oui.
Par exemple, sur la question de l'évasion fiscale, le Conseil constitutionnel français invoque sans arrêt la liberté d'entreprendre qui est dans la Constitution et dans la Déclaration des droits de l'homme pour empêcher des avancées contre l'évasion fiscale. Et sur un plan plutôt de droite, oui. Là, ça se passe plutôt au niveau européen, quand des gouvernements veulent lutter contre l'immigration, mm-hmm. eh bien, vous avez toujours effectivement des articles de la CEDH mm-hmm. pour vous dire « Ah non, attention, là, c'est impossible ouais. ». Le problème, c'est que si on pousse ce raisonnement, eh bien, finalement, quelle légitimité ont ces droits face à la volonté majoritaire ? Ça, là, je vous pose la question sans y répondre, évidemment.
Alors, ça nous amène tout de même.
Marine Le Pen a désavoué plusieurs fois son père, hein, vous disiez tout à l'heure, mais elle a repris parti en désavouant beaucoup de ses attitudes. Notamment, elle se dit protectrice des valeurs fondamentales de la République. En quoi vous considérez que ce sera un coup de force, un coup d'État, que d'avoir recours à cet article 11, par exemple, pour, sur la peine de mort ?
Alors, le recours à l'article 11 pour réviser la Constitution est inconstitutionnel. Ça, c'est absolument
clair. Elle dit le contraire.
Ouais. Elle dit le contraire, oui, mais enfin, c'est pas la D'accord. première fois qu'elle dit des choses un peu curieuses.
Alors,
la
quasi... sur un précédent historique, quand même.
Oui.
Alors, expliquez lequel.
Ok.
62.
Donc, 62. Alors, pourquoi est-ce que ce recours est contraire à la Constitution ? C'est extrêmement
clair.
Hein, voilà, en faisant très court. Pour réviser la Constitution, parce qu'il y a un titre de la Constitution qui s'appelle « De la révision de la Constitution ». Quand vous avez un texte qui dit « Le mariage », eh ben on se marie selon cette procédure et non pas selon la procédure des fiançailles ou du pacte ou d'autres choses. On respecte les titres des textes. En plus, il y a d'autres arguments de texte, notamment le fait que l'article 11 dit que le référendum peut être utilisé pour un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait une influence sur le fonctionnement des institutions. Mmh. Donc si un traité ne doit pas être contraire à la Constitution pour passer par l'article 11, une loi, c'est la même chose forcément.
Mais on disait 1962, le général de Gaulle a recours à cet article pour mettre en place eh bien, l'élection au suffrage universel du président de la République.
Tout à fait. Mais ce n'est pas parce qu'il l'a fait qu'il a le droit de le faire. Voilà. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui fraudent le fisc que le droit de frauder le fisc a été créé. La plupart des juristes en étaient d'accord. Oui. De Gaulle doit se retourner dans sa tombe, hein, lui qui a combattu Vichy, de voir qu'un leader d'extrême droite est en marché dans ses pas. Donc, De Gaulle l'a fait une fois, mais il l'a refait en 69. En 69, il a été fiché dehors. Or, une fois n'est pas coutume. Et ce n'est pas parce qu'il l'a fait une fois que c'est devenu constitutionnel.
Alors. Il pourrait le faire.
Ah ben on ne parle pas du tout de la même chose. Ce n'est pas un référendum qui réviserait la Constitution. Mmh. Or, ce qui est embêtant dans le programme de Mme Le Pen, c'est qu'il y a plusieurs mesures dans lesquelles elle veut réviser la Constitution sans le dire clairement au peuple. C'est complètement camouflé. Donc, ça pose un problème d'honnêteté, notamment sur la place des traités par rapport aux lois et sur d'autres questions.
Sur Emmanuel Macron, en une phrase, il est quand même le spécialiste pour être partisan des référendums avant d'être élu et ensuite de ne pas le faire. Je serais quand même extrêmement risqué. Ensuite, sur le RIC, Emmanuel Macron est un des rares candidats, en réalité, qui ne propose pas l'introduction de ce RIC.
Le référendum d'initiative citoyenne.
Le référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire que les citoyens pourraient, sur un sujet qui les intéresse, provoquer un référendum. Il y a une procédure qui existe qui s'appelle le RIP en France, qui en réalité tellement...
Un référendum d'initiative partagée.
Voilà, et qui est tellement...
Très compliqué à
tellement entouré de conditions. Il faut qu'il y ait des parlementaires qui co-signent. Il faut qu'il y ait un dixième de l'électorat, donc des millions de personnes qui signent une pétition pour que, en fait, en réalité, on a mis en place ce RIP pour que pour
donc
ne pas...
Donc il n'y en a jamais eu jusqu'à maintenant.
Mais parce qu'on l'a mis en place pour ne jamais qu'il advienne, en réalité. C'est, on a fait semblant d'accéder aux volontés de faire des référendums en mettant quelque chose d'impossible. Le RIC, alors il y a beaucoup de RIC différents, on en parlera, mais c'est beaucoup plus simple. Mais Emmanuel Macron ne veut pas, et parce que pendant les Gilets jaunes, on a entendu les macronistes, ils ont dit, ils le pensent clairement, que quelque part, c'est trop dangereux. C'est-à-dire que les Français feraient, entre guillemets, n'importe quoi, menaceraient la liberté individuelle, que ce ne serait pas raisonnable de le faire. Alors que Jean-Luc Mélenchon, par exemple, mais aussi Marine Le Pen, promettent tous deux de mettre en place ce RIC s'ils sont élus.
Quelles sont les vertus, les avantages du RIC ?
Ah, mais les vertus, il y en a beaucoup, en fait.
Oui, ben on s'en doute, vous le défendez, mais rapidement, soyez synthétique.
Écoutez, les avantages du RIC, la première chose importante dans le RIC, c'est que ça donne des droits aux gens. Mm-hmm. Et chaque citoyen peut demander l'arbitrage de l'électorat sur une question qui lui tient à cœur et qu'il arrive à mobiliser suffisamment de gens derrière lui. Donc il peut voter et il peut initier.
D'accord.